Aujourd'hui, on va commencer une série. C'est écrit une série de prédications, une série intitulée les paraboles du royaume. C'est une série de paraboles qui se trouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu.
Et pourquoi une série et particulièrement sur ce sujet en ce sujet spécifique, pourquoi on fait plusieurs prédications en série?
Alors déjà une série parce que on aime bien avoir une série comme ça, ça permet d'aller profondément dans un sujet. Mais cette année, on étudie les discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu dans les groupes de maison. On en a quatre comme ça par lesquels on passe, le sermon sur la montagne, le discours d'envoi des disciples, ces deux-là on les a fait, on va bientôt commencer le discours de Jésus sur l'Église et les relations fraternelles, et puis on termine avec le discours sur la fin des temps. Et au milieu de ces quatre discours, il y en a un autre, certains appellent ça un discours où Jésus parle à la fois aux disciples, à la fois à la foule, et qui forme une unité d'enseignement. Et on s'est dit que ça apporterait quelque chose dans notre réflexion cette année autour de Matthieu et autour de comment Jésus enseigne les disciples. Ça apporterait quelque chose d'étudier aussi ce qu'il leur dit sur le royaume.
Mais dans nos cultes le dimanche matin, on a des participants qui n'ont pas encore tous participé dans les groupes de maison. Ils
ne
sont pas tous, pas encore engagés, ils ne sont peut-être pas aussi disponibles. Est-ce que c'est utile pour eux le dimanche matin?
Complètement, complètement utile cette série, parce que lorsque Jésus commence sa prédication, il dit « Changez de comportement, le royaume s'est approché ». Et c'est au centre de la prédication de Jésus que ce royaume, que cette notion du royaume. Et donc, je pense que c'est super important pour tous ceux qui veulent comprendre l'enseignement de Jésus, la prédication de Jésus, que de comprendre ce qu'est le royaume dont il parle.
Bon, cette série est pour toutes les personnes présentes. Donc, je vous laisse présenter la première de cette série.
Très bien. Merci, Thierry. Donc, si vous avez suivi, nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, vous pouvez écouter la lecture, vous pouvez suivre dans vos Bibles selon vos préférences. Matthieu 13, à partir du verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait « Le semeur sortit pour semer. » Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples vinrent lui demander « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « Parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe, « Vous avez beau entendre, vous ne comprenez jamais, vous avez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi, Ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé les yeux de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurais guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'à temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une occasion de chute. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole, et elle devient stérile. Celui qui a été ensemencé dans la bande terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Jusqu'ici pour notre lecture. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ? Pour que les gens ne comprennent pas. C'est ce que semble dire ce texte. Si Jésus parle en parabole, c'est pour ne pas être compris. On comprend la question des disciples. Les disciples viennent d'être envoyés en mission. Ils sont allés dans les villes pour annoncer le règne de Dieu. Et ils ont une préoccupation. Être efficace. Convaincre que les gens suivent le mouvement. Et cette réponse de Jésus au verset 13, elle a de quoi les perturber. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas ni ne comprennent. Oui, il y a de quoi être perturbé. Peut-être au moment de commencer, on peut se poser cette question. Qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole, c'est une façon de parler, une méthode de l'art oratoire. Une façon de parler où on illustre une vérité morale ou religieuse par une comparaison tirée de la vie courante. On en voit ici un cas pratique. Jésus compare le royaume, le règne, dans ma version, avec un semeur qui sème, dans le but d'avoir une récolte en son temps. Je disais qu'il est perturbant de voir Jésus parler afin que les gens ne comprennent pas. Je crois que ça nous interpelle sur une chose déjà, c'est que Jésus ne cherche pas des admirateurs. Jésus a une certaine popularité. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte au début du texte, les premiers versets, il sort de la maison, à peine il se montre, les foules arrivent, tellement nombreuses qu'il ne peut pas rester sur la plage, il est obligé de prendre du recul, monter dans un bateau pour avoir de l'espace, ne pas se faire écraser, que sais-je. Il est populaire. Il me fait penser à quelqu'un qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle, quelqu'un qui n'aurait pas déclaré sa candidature et tout le monde le suit. Tout le monde est derrière lui, tout le monde attend. Quand est-ce qu'il va enfin se déclarer ? Les journalistes sont là. Et un matin, il sort, la foule arrive et il commence. Le capitaine conduit son bateau. Il connaît sa destination, mais il ne sait pas ce qu'il attend sur sa route. Je ne sais pas comment on réagirait dans notre société médiatique, mais qu'est-ce qu'il dit ? De quoi il nous parle ? Nous, on attend quelqu'un qui pose un acte, qui pose une candidature, qui nous annonce un programme, qui nous dit qu'il faut voter pour lui et pas pour les autres. Un message clair, des théories, des directives. Voilà ce que Jésus devrait faire s'il veut être efficace. Mais Jésus ne recherche pas l'efficacité. Jésus cherche autre chose. J'ai été un peu rapide avec vous lorsque j'ai dit que Jésus utilisait les paraboles pour ne pas être compris. Si on regarde bien, juste avant, au verset 11, Jésus a dit, il parle en parabole, parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux, cela n'a pas été donné. Dans d'autres traductions, il n'y a même pas ce « si » conditionnel qui ouvre. Il est écrit, il vous a été donné de comprendre, à eux, non. Jésus parle en parabole pour faire le tri. Il fait le tri entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, entre les disciples et les autres. Les paraboles permettent de voir qui sont les disciples. Ce sont ceux qui comprennent. Alors, ça pose une question. Est-ce que c'est le tri qui fait la compréhension ou la compréhension qui fait le tri ? Je m'explique. Est-ce que c'est parce que j'ai été trié, choisi, que je suis tombé du bon côté, que j'arrive à comprendre ? Ou est-ce que c'est parce que je comprends ce que dit Jésus, que je suis du bon côté, du côté des disciples, de ceux qui marchent avec lui ? Parfois, quand je discute avec certains, il y a des gens qui me disent « J'admire ceux qui ont la foi. J'aimerais bien croire, mais moi, je n'ai pas la foi. » Est-ce que la foi, c'est une fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne choisit pas, on l'a ou on ne l'a pas ? À bien y regarder, Jésus donne d'autres indications. Et il y a cette citation du prophète Ésaïe que nous avons lue, que Jésus cite. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurai guéris. De peur. De peur d'eux. Ils n'écoutent pas parce qu'ils ont peur. De quoi ont-ils peur ? Ça me fait penser à l'attitude que je peux avoir avec les démarcheurs par téléphone ou quelqu'un qui vient sonner à la porte. La technique, c'est d'abréger au maximum la conversation de peur qu'il arrive à me vendre quelque chose, de peur qu'il arrive à me convaincre et que finalement je craque, j'achète, je m'engage, que sais-je. Et ici, c'est exactement ça, je crois. Ils ont peur, peur qu'écouter Dieu les fasse changer. Dieu demande qu'on se soumette, il demande qu'on le reconnaisse comme Dieu, qu'on le mette à la première place. L'écouter, c'est prendre un risque. Le risque de peut-être changer son mode de vie. Peut-être perdre ce qu'on pense être notre autonomie, laisser un autre décider pour nous. En même temps, quand on voit où l'homme va, où va l'humanité, où va notre monde, quand c'est l'homme qui décide, je ne suis pas sûr qu'on perde grand-chose à suivre Dieu. Mais le prophète Ésaïe le constate, Jésus reprend. L'homme s'accroche à ce qu'il a, à ce qu'il croit avoir, et n'écoute pas Dieu. Et pourtant, Dieu le guérirait. Comprendre la parabole, ça demande un effort. La parabole, ce n'est pas un enseignement immédiat. La parabole, c'est quelque chose dans lequel il faut entrer. Entrer pour venir, pour rencontrer Jésus. Et c'est cet effort qui fait le tri. Et il n'y a qu'à voir les disciples qui ont l'explication, à qui Jésus donne l'explication, les disciples qui marchent à sa suite, les disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Ils cherchent à comprendre, qui posent des questions. Est-ce que la foi est une fatalité qui nous tombe dessus? Je crois que Jésus donne des indices dans ce texte pour montrer qu'elle est accessible à ceux qu'il cherche. Il y a cette parole avec laquelle il conclut la parabole, que celui qui a des oreilles entende, une invitation large. Il y a aussi le temps passé à enseigner, il est écrit, il les enseigna longuement. Il ne s'économise pas, si c'était juste une question de « est-ce que ça m'est tombé dessus ou pas ?» ce serait plus vite fait. Jésus ne ménage pas ses efforts pour ceux qui sont avec lui, mais Jésus est intransigeant avec ça. Il ne cherche pas des admirateurs, une foule qui le suit. Il veut des disciples qui le suivent, qui l'écoutent, qui empruntent le même chemin que lui. Mais il est temps à présent de regarder la parabole elle-même. Que veut dire cette parabole? Que dit Jésus à travers cette parabole? Déjà, cette parabole, il y a un personnage, le semeur. Qui est-il? Qui représente-t-il? Ce n'est pas dit explicitement. Il y en a d'autres où Jésus nomme les différents personnages. Là, il ne le fait pas. Ceux qui sont versés dans les Écritures parmi les auditeurs de Jésus se souviennent peut-être que Dieu se décrit lui-même comme un semeur. En Jérémie, vers chapitre 31, Osée, au chapitre 2, Dieu est le semeur. Le lecteur de l'Évangile verra aussi, dans la parabole suivante, qu'on verra la semaine prochaine, que le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Que sème-t-il? Ça, Jésus est sympa, il nous le dit au verset 19, la parole du règne ou la parole du royaume. Voilà ce qui est semé, la parole. C'est elle, cette parole qui produit du fruit. Elle est décrite comme semence qui produit quelque chose, qui produit du grain qui pourra devenir une nouvelle semence. Une semence qui ainsi se multiplie. C'est une description intéressante du royaume. Là. Aussi, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est comment sème ce semeur. Il envoie largement, partout. Il ne cherche pas à savoir où sont cachées les pierres ou les mauvaises herbes, les épines. Il envoie partout. Et tellement partout que même le chemin qui lui se voit n'est pas arrosé, est arrosé. Et à la fin, il obtient du fruit. On oublie la semence dans les mauvais lieux et la récolte est là. On peut compter. C'est la bonne nouvelle de cette parabole. Mais je lisais un commentaire sur ces paraboles et le théologien qui en parlait, Matthieu Sanders, disait que c'est une parabole opérante. C'est-à-dire que c'est une parabole qui se produit au moment même où Jésus parle. Ce n'est pas seulement un enseignement, il est en train de décrire ce qui se passe. Parce que au moment où Jésus dit cette parabole, il est en train de semer. Et au ce moment où les auditeurs entendent la parabole, ils sont en train de recevoir, certains dans de la bonne terre, d'autres dans un sol pierreux ou au milieu d'épines, certains même comme au bord du chemin. Une parabole opérante qui produit ce qu'elle décrit au moment où c'est décrit. Une belle mise en abîme pour ceux qui aiment ça, les mises en perspective. Mais le centre de cette parabole, le centre de cet enseignement, c'est peut-être les quatre terrains, les quatre types de terrains. Un bon, trois mauvais. Et Jésus commence par les mauvais terrains. Et je crois que s'il commence par le mauvais terrain, c'est que le terrain normal, c'est le bon terrain. Normalement, la parole produit du fruit. C'est son comportement normal. Si ça ne produit pas du fruit, c'est qu'il y a un problème. Et on va commencer par identifier les problèmes. Le premier terrain problématique, c'est le bord du chemin. Et ça, c'est le terrain le pire. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pénètre dans le sol. La parole est enlevée directement. Certains n'écoutent pas ce que dit Jésus. Ils sont là, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Ils ferment leurs oreilles. Ce n'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Un peu moi, comme avec mon démarcheur téléphonique. On passe à autre chose. Mais il y a deux autres terrains qui nécessitent, je pense, qu'on passe un peu plus de temps à en parler. Parce que sur ces deux autres terrains, au début, ça pousse. Mais finalement, ça ne tient pas. Et je crois qu'il y a là un enseignement, c'est que ce n'est pas dans l'immédiateté qu'on voit si la parole porte du fruit. Mais c'est dans le temps. C'est sur la durée. Et Jésus donne des raisons pour lesquelles la parole ne pourrait ne pas prendre. La première, c'est ce terrain, le sol pierreux. Alors là, c'est spectaculaire, ça pousse vite, la terre est peu profonde, ça monte, mais aussi, rapidement, ça se dessèche. Je me souviens, une fois, on a planté des framboisiers dans notre jardin, on l'a fait au mois de mai, on a eu un mois de juin super ensoleillé, et au bout de deux semaines, il y avait quelque chose de tout desséché. C'était fini. Et Jésus explique ce dessèchement, c'est la détresse et la persécution. Alors, quand on parle de persécution, on pense certainement à l'Église persécutée. On nous en parle régulièrement et on a raison. L'Église persécutée, c'est quelque chose de spectaculaire, avec des chrétiens qui sont tués pour leur foi, qui sont poursuivis, à qui on confisque leurs biens. C'est quelque chose de très réel. Mais la persécution, on peut la trouver aussi de façon plus diffuse. Peut-être l'opposition qu'on peut avoir au sein du foyer quand on est chrétien et que l'autre ne l'est pas. Ça peut être une opposition dure ou une opposition molle, une opposition qui cherche à empêcher de venir ou une opposition simplement molle de quelqu'un qui fait d'autres plans, qui reste dans le lit pour une grasse matinée ou qui va faire une promenade du dimanche matin. Et ce n'est pas facile de tenir et de s'enraciner. Il est difficile de venir au culte lorsqu'on fait face à des reproches, cette opposition dure, ou à des projets concrets, contraires et attirants, cette opposition molle. Il y a aussi la détresse, qui peut être un problème de santé, un accident, une difficulté persistante dans les relations, au travail, dans la famille, quelque chose qui nous mine le moral de façon profonde et pour un moment. Et quand on a quelque chose de contrariant comme ça, On peut être fâché avec Dieu. J'ai plus envie de lui parler. Ou tout simplement, j'ai pas envie. Je ne me sens pas. Pas envie de venir pour écouter, pour louer Dieu. Je ne suis pas en état. J'ai trop de difficultés pour me concentrer. Le risque, Jésus le nomme, c'est qu'à force, on se dessèche. Comment résister ? En ayant des racines, ne pas se contenter lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu, à quelques paroles chocs que je peux appliquer directement dans ma vie, quelques slogans, des réponses simples. Non, au contraire, creuser la parole, se poser des questions, aller plus loin. À côté du sol pierreux, il y a aussi le sol où se trouvent les épines, les ronces, les mauvaises herbes. Là aussi, la semence arrive, elle s'enfonce dans le sol, elle prend racine, elle pousse, mais elle est mise en concurrence avec d'autres plantes, des épines, des ronces, qui, à force, vont étouffer. C'est que cette semence, elle a besoin d'espace pour recevoir la lumière, pour recevoir l'eau. Elle a besoin de ne pas être en concurrence, mais d'avoir de l'espace. Et la vie de disciple demande du temps et de l'espace. Il faut du temps pour se réunir avec les autres, pour lire et méditer la parole, pour prier et pour écouter Dieu. Attention, dit Jésus, attention à ce qui peut prendre de la place dans nos vies. Jésus explique que ce qui peut prendre de la place sont les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur. Qu'est-ce que c'est que cet attrait ? Je crois que c'est tout simplement réussir, réussir aux yeux du monde, réussir comme les autres. Le regard des autres est important, on veut, comme eux, accéder aux mêmes choses. On peut vouloir réussir par le travail, s'investir pour monter les échelons, pour être reconnu, pour avoir une valeur, monter une entreprise, laisser quelque chose, produire quelque chose. On peut vouloir gagner de l'argent, plus d'argent. On peut vouloir goûter tous ces loisirs que nous propose notre société. On est dans une société de loisirs où l'offre se multiplie tout le temps. Et à l'heure des réseaux sociaux, il est bon d'avoir des choses à raconter, d'avoir vécu des choses que je pourrais publier sur mon mur ou sur ma timeline. On peut vouloir courir après l'amour, que ce soit une priorité de chercher encore et encore. Ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus relie l'attrait avec l'inquiétude. Et comme s'il n'y a qu'un pas pour passer de l'un à l'autre, de l'attirance à l'inquiétude. Quand on met la priorité sur certaines choses, ça génère des inquiétudes. Quand on désire quelque chose, on va s'inquiéter de ne pas l'obtenir. Et ceux parmi nous qui ont lu le sermon sur la montagne se souviennent de Jésus qui dit « On ne peut pas servir de maître. » Aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai cité plusieurs choses, le travail, l'argent, les loisirs, l'amour. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais quand elles prennent trop d'importance dans nos vies, elles peuvent étouffer la foi. Comment résister ? On peut résister en ménageant de l'espace, pas être étouffé par ces herbes qui nous entourent, faire de l'espace. Se méfier de ce qui prend trop de place dans nos vies. On est dans le monde, on a besoin d'être connecté avec ce monde, avec ceux qui nous entourent, mais on n'est pas du monde. Nous ne sommes pas avec les mêmes objectifs. Nous sommes de passage, visant quelque chose d'autre, vivant justement ce royaume de Dieu dont parle Jésus. Et nous devons nous en souvenir jour après jour et faire de la place pour protéger le royaume dans nos vies. Et puis le quatrième terrain, c'est le bon, c'est la bonne terre. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la bonne terre, elle n'a pas de caractéristiques propres. Comme je le disais, normalement, quand on sème, ça pousse. La bonne terre, c'est celle qui a été débarrassée des pièges cités, de la détresse et de la persécution, de l'inquiétude et de l'attrait du monde. Ces deux pièges qu'on ne voit pas au début, mais qui se révèlent dans le temps de la vie chrétienne, dans le temps de la vie. La bonne terre, c'est celle qui est profonde pour permettre aux racines de se développer et de s'étendre. C'est celle qui ne contient pas de mauvaises herbes. La bonne terre, c'est tenir bon dans la détresse et la persécution. C'est savoir contenir les inquiétudes du monde. Je disais que la parabole est opérante. Elle était opérante à l'époque de Jésus. Ceux qui l'entendaient se retrouvaient dans ces différents terrains avec cette question. Quel terrain êtes-vous ? Et cette parabole qui était opérante à l'époque de Jésus, elle est opérante encore aujourd'hui alors que nous la lisons et elle nous pose, elle vous pose cette même question. Quel terrain êtes-vous ? Cette parabole, je suis sûr, vous êtes nombreux à la connaître, vous l'avez déjà entendue. Peut-être que pendant la lecture du texte, vous vous demandiez qu'est-ce qu'il vient bien pouvoir dire. Je connais cette parabole par cœur. Mais le truc, c'est que ce qui est important, ce n'est pas de connaître cette parabole, mais de l'utiliser pour s'examiner et savoir où on en est. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Est-ce que dans ma vie, il y a de la place pour le règne de Dieu ? Est-ce qu'il y a de l'espace ? Ou est-ce qu'en ce moment, j'ai des sujets d'inquiétude qui me rongent, qui ratatinent le règne ? Est-ce que ces sujets d'inquiétude m'ont entraîné et que je vise autre chose, que je me laisse emporter et que le règne passe au deuxième plan ? Est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté me dessèche et empêche la parole de s'enraciner ? Comment est-ce que je reçois la parole aujourd'hui ? Comment est-ce que je reçois le règne aujourd'hui ? C'est une question que vient nous poser ce texte transmis par Matthieu, aujourd'hui encore. Je vous invite à y réfléchir ce matin, je vous invite à y réfléchir pendant la semaine. Avant de voir la suite des paraboles du royaume la semaine prochaine. Mais pour terminer, je me demandais, est-ce que finalement cette parabole, elle n'est pas un peu pesante ? Est-ce que la vie à la suite de Jésus, ce n'est pas un combat difficile où les occasions de chute sont tellement nombreuses ? Mais je crois que ce n'est pas ainsi qu'enseigne Jésus. Et Jésus finit sa parabole de manière positive. Finalement, à la fin, le fruit, il est là. Il y en a un qui porte 60, l'autre 30, le premier 100. Peu importe, à la fin, le fruit, il est là. et à la fin, à celui qui... On est aidé sur ce chemin. À celui qui a, on donnera encore plus. Donc j'aimerais vous encourager à prendre ce chemin, à vous attendre à Dieu, à ce Dieu qui donne encore plus à celui qui a, et à vous réjouir de cette bonne nouvelle. Le semeur sème. La semence qui tombe dans la bonne terre porte du fruit. Le royaume avance. Jésus-Christ est glorifié. À lui soit la gloire. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour repenser à tout ça, au terrain, au chemin parcouru avec le Seigneur depuis la première fois où vous avez entendu cette parabole jusqu'à aujourd'hui. À où vous en êtes aujourd'hui. Seigneur, je crois que tu nous interpelles aujourd'hui. Et parfois, on voit l'Église comme un lieu où te servir, un lieu où rentrer dans le projet et faire avancer le royaume. Mais avec cette parabole, tu nous rappelles aussi où vous êtes le royaume et il doit grandir. Seigneur, j'aimerais te prier que tu prennes soin du terrain que nous sommes et de la semence que tu y as placée. J'aimerais te prier que tu viennes retirer les pierres qui sont cachées, que cette parole puisse prendre racine en nous, être solide, et ne puisse pas craindre le soleil brûlant de la détresse, de la persécution. J'aimerais te prier que tu viennes désherber et que tu nous aides à faire de l'espace et pas nous laisser distraire par tout ce qui se trouve autour de nous et qui appelle notre attention et nos efforts. Nous voulons, Seigneur, que ta parole grandisse en nous. Nous voulons voir ton royaume s'étendre. Et nous attendons, Seigneur, le jour de ton retour, le jour où ton royaume sera pleinement visible aux yeux de tous, le jour où les combats seront terminés, les difficultés seront finies. Le jour de ton règne. Amen.